Et salut, salut, on reprend le live. Il est midi 30 et quelques. Et on est le 6 mai. Et bon, on va vous lire plusieurs choses. Peut-être que je vais pas commencer tout de suite par le communique ta mère. Je vais commencer par un communiqué de Sud Éducation. Parce que du coup, la rentrée se profile à toute vitesse. Ah, tiens, on peut brancher l'ordi peut-être pendant que je parle, non? Ça te dit? Alors attends, je baisse le son de l'ordi. Du coup, ben ouais, les enseignants et enseignantes vont devoir rentrer en classe. Et là, il y a un petit texte de Sud Éducation qui lance un préavis de grève à partir du 11 mai pour ne pas rentrer en classe. Et du coup, je le lis. La loi instituant un service minimum d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire apporte de nouvelles restrictions à une liberté fondamentale, le droit de grève, reconnu à toutes les salariées dans la Constitution. Les organisations syndicales, dans leur majorité, en demandent d'ailleurs l'abrogation. Depuis 2007, les enseignantes du premier degré sont soumises à une restriction de leur droit de grève. Deux points. Il leur faut déclarer 48 heures à l'avance leur intention de participer à une grève, afin que la commune ait la possibilité d'organiser un service minimum d'accueil. Ainsi, seulement dans les communes où le service minimum d'accueil est organisé et seules les enseignantes en charge de classe le jour de la grève sont concernées par la déclaration d'intention de grève. Autrement dit, s'il n'y a pas de service minimum d'accueil dans la commune ou si vous êtes déchargé pour la direction, enseignante en RASED ou remplaçante non affectée, vous n'avez pas besoin de faire la démarche. La Fédération Sud Éducation s'oppose à cette attaque de l'exercice du droit de grève et a toujours soutenu les enseignantes qui refusent de se déclarer grévistes à l'avance. Sud Éducation propose cependant un modèle de déclaration d'intention de grève aux enseignantes qui souhaitent l'envoyer à leur inspecteur. Cela a l'avantage de pouvoir être gréviste dès qu'on le souhaite, sans se soucier du délai des 48 heures de prévenance, et également de mettre en difficulté l'administration tout en la mettant en contradiction par rapport à ce système de déclaration inique qui a été mis en place par Sarkozy. Donc voilà, donc sur leur site internet, on peut avoir ce préavis d'intention de grève pour les enseignants du premier degré, sachant que les enseignantes et enseignants du second degré n'ont pas besoin de faire ça, ils peuvent dire le jour même qu'ils sont pas là parce qu'ils sont en grève. Et il me semble bien qu'il y a un préavis qui va être lancé de toute façon par les organisations syndicales pour ne pas faire de rentrée scolaire à partir du 11 mai. En sachant qu'hier, on a entendu un petit salut, salut, le duplex s'anime. Sachant qu'hier, on a entendu déjà juste une illustration d'une instite qui lit à ses enfants les futures règles qui auront lieu à partir du 11 mai, et on a bien compris que ça va consister essentiellement à aller se laver les mains et à aller au coin, enfin plutôt dans un sas où on est isolé quoi. C'est quoi l'isolement? Bah, c'est un peu ce qu'on vit depuis pas mal de temps déjà. Voilà. Et je crois que j'avais un autre truc à lire. Non, enfin oui, bon, on peut peut-être se passer un petit son. Ah oui, d'ailleurs, la playlist qu'on a entendue, il y a un point commun entre toutes ces chansons. C'est le petit jeu de la journée, il faudra trouver c'est quoi. Allez, j'envoie la musique.
I'm so happy, cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! So long.
not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good.
Hello, hello.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Ce bitume donc encore moins d'espace. Plus est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est.
Ok, ben on va se remettre ce petit passage parce que c'est un test de Communique ta mère. C'est un communiqué qui va être lu. En fait, quand je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup penser à cette chanson de NTM qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Et du coup, on va essayer avec un super technicien de mixer tout ça. Et donc, ce communiqué, ce texte, il s'appelle « État d'urgence sanitaire, l'ordre social, quoi qu'il en coûte ».
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace. Plus est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est.
Après avoir été nié pendant des semaines, la dangerosité du Covid-19 a donné lieu à un arsenal de mesures destinées à enrayer la propagation de la maladie. Bien loin de concerner le seul champ médical, ces mesures impliquent des transformations profondes du fonctionnement des institutions étatiques, et notamment judiciaires. Depuis la publication de la loi du 23 mars, qui prévoit les conditions de l'état d'urgence sanitaire et son instauration le même jour, et plus encore depuis qu'une ordonnance a précisé les adaptations de la justice pénale à la crise sanitaire, des voix se sont élevées pour dénoncer ce qui est appréhendé comme une dérive de l'état de droit. On peut se réjouir de constater une réaction plus franche après quelques jours de sidération collective, mais on peut aussi, à l'inverse de l'idée de dérive dans sa forme condensée, à l'inverse de l'idée de dérive, analyser l'état d'urgence comme un moment de quintessence de la justice d'État, c'est-à-dire un moment où elle apparaît dans sa forme condensée, dans sa forme la plus explicite, celle qui ne s'embarrasse plus d'aucun atour démocratique pour s'affirmer nue. Du quoi qu'il en coûte, martelé lors du discours présidentiel du 16 mars, il serait naïf de retenir la promesse de largesse budgétaire sans contrepartie. Il fallait plutôt comprendre que, quoi qu'il en coûte, l'État imposera son ordre économique et social, même s'il faut en passer par une suspension des droits les plus fondamentaux, par une terrible régression sociale, par une paupérisation massive. L'état d'urgence n'est pas le confinement, loin de là. Il ne durera pas ce que le confinement... Il ne durera pas ce que le confinement durera, loin de là. L'état d'urgence sanitaire n'implique pas qu'une modification de nos quotidiens pour la protection de notre santé collective. Il implique aussi l'instauration d'un état autoritaire pour la sauvegarde de l'ordre social en perspective de l'offensive capitaliste annoncée.
Ces cons ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que t'aurais dû péter.
Alors, ouais, l'état d'urgence, combien de temps va-t-il encore durer ? Je continue le communiqué. Instauration d'un nouveau régime. Les effets de la loi du 23 mars sur la vie quotidienne ont été abondamment commentés dans les médias, sur les réseaux sociaux. Distanciation sociale, interdiction de tout déplacement sauf dérogation, réglementation des transports, interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité collective, fermeture des établissements scolaires, réquisition de biens et de personnes, possibilité de mise en quarantaine, de placement ou isolement des personnes affectées. Non, personne ne s'est séquestré, mais c'est tout comme. Les conséquences de la loi du même jour sur le fonctionnement des institutions n'ont par contre pas été particulièrement soulignées. Celles d'une validation des entorses à la Constitution par le Conseil constitutionnel lui-même non plus. Réduire les enjeux de l'état d'urgence sanitaire aux modalités du confinement évacue toute critique conséquente de la gestion de la crise. Car cette loi concerne bien plus que la santé. Elle met en place un régime politique qui n'est malheureusement pas inédit. Lorsque les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'exécutif et qu'il peut en user de manière discrétionnaire, cela porte un nom, même si cela heurte les mythes du pays des droits de l'homme et de l'Europe de la démocratie.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme ça.
Alors qu'il existe déjà des dispositions du Code de la Santé publique pour accorder des pouvoirs spéciaux au ministre de la Santé en cas de catastrophe sanitaire, le gouvernement a choisi d'instaurer un nouveau régime d'exception pour avoir toute latitude à réglementer dans un très grand nombre de domaines de la vie sociale, économique, politique et juridique. Avec la loi du 23 mars, l'exécutif est autorisé à gouverner par ordonnance. 42 textes ont été ainsi adoptés entre le 25 mars et le 15 avril, sans aucun débat. Un peu comme un 49-3 permanent, mais en prime, sans aucune consultation du Parlement. Ce n'est pas qu'on comptait beaucoup sur ce dernier pour nous défendre, mais il est tout de même significatif qu'il soit rendu muet et que soit mis fin à la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Localement, le rôle des préfets est conforté, puisque c'est à eux de faire appliquer et de moduler les mesures décidées par le gouvernement. Pour exemple, le confinement renforcé en Alsace le week-end de Pâques, ou les tentatives de réquisition de milices de chasseurs en Seine-et-Marne début avril. Dans la rue, c'est la police qui décide de manière arbitraire si nos déplacements sont légitimes ou non, sans qu'aucun texte ne précise les conditions de l'infraction au non-respect du confinement, et sans que les tribunaux de police puissent statuer en cas de contestation. Désormais, toute personne dans la rue est délinquante, sauf preuve du contraire, ou plutôt, sauf acquiescement aléatoire des flics. Un blanc-seing leur est donné pour les contrôles abusifs et les violences, surtout dans les quartiers populaires, où les brutalités habituelles de la police se sont intensifiées. En outre, la répétition de verbalisation est devenue un délit, ce qui est parfaitement contraire aux règles du droit.
Ces cons ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout aurait dû péter.
Ce régime d'exception s'inscrit dans le droit au-delà de la durée du confinement et au-delà de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Le 23 mars, l'état d'urgence sanitaire a été décrété pour une durée de 2 mois, par dérogation d'ailleurs au régime tout juste créé. Mais il pourra être renouvelé sur tout ou partie du territoire. Il pourra aussi être levé, puis instauré à nouveau si besoin. autant de fois que le gouvernement l'estimera utile, et ce jusqu'au 1er avril 2021, voire plus si la loi est prorogée, c'est-à-dire maintenue. Et en dehors des périodes d'état d'urgence, le ministre de la Santé garde le droit d'édicter des mesures de restriction de liberté, collective mais aussi individuelle, jusqu'à disparition durable de la crise sanitaire. Hors des périodes d'état d'urgence, nous resterons donc encore dans l'exceptionnel. Et après l'urgence et l'exceptionnel, rien n'empêchera que le Parlement, revenu à ses fonctions ordinaires, pérennise certaines des dispositions, je me suis perdu, de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, à peine le sabordement du droit du travail prononcé par ordonnance le 25 mars, le patron du MEDEF appelle à une extension générale du temps de travail. Jusqu'au 31 décembre, de nombreux secteurs seront renvoyés à des conditions qu'on croyait dépassées. Journée de 12 heures, semaine de 60 heures, suppression des RTT, de congés. L'ordonnance sur le travail montre qu'il n'y a pas un sens de l'histoire qui nous mènerait vers le progrès, mais toujours une lutte de classe à mener pour ne pas se faire dévorer davantage. Et après le 31 décembre, que se passera-t-il ? Tout porte à croire que la crise économique qui avance sous le linceul du Covid-19 sera le prétexte parfait pour exacerber l'exploitation.
Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ?
Les droits de la défense anéantis. L'instauration d'un nouveau régime est un choix politique, non une fatalité virologique déterminée par la catastrophe sanitaire. La culpabilisation et la répression à l'encontre des classes populaires ne suffisent pas à masquer les dénis du gouvernement, ses mensonges, sa gestion mortifère, l'absurdité de ses consignes contradictoires, non plus la mesquinerie de ses politiques budgétaires, la férocité de ses réformes, sa logique de privatisation à tout va. Il est des mesures prises qui ne peuvent en aucun cas se justifier par la prévention sanitaire, mais qui servent sans aucun doute une stratégie de domestication de la population. Il en est ainsi de l'ordonnance qui modifie les règles de procédure pénale. Durant les périodes d'état d'urgence sanitaire, et un mois au-delà, les délais de prescription sont suspendus, les délais de voie de recours sont doublés, et surtout les conditions des gardes à vue, des jugements et des détentions sont complètement transformées. En quelques jours, les droits de la défense ont été anéantis à toutes les étapes du parcours judiciaire, de l'arrestation jusqu'à la sortie de prison. Les tribunaux sont ouverts au minimum, toutes les audiences civiles ou administratives sont reportées, seule la justice pénale, considérée comme essentielle, continue son cours. En d'autres circonstances, on pourrait se réjouir de la mise à l'arrêt de la justice d'État, mais là c'est bien sûr aux dépens des arrêtés, des enfermés, des condamnés. Les institutions judiciaires sont réduites au plus strict besoin du pouvoir, celui de punir et d'enfermer. Il serait trop long de décrire ici l'ensemble des dispositions prises en matière de justice pénale. Pour faire court, mentionnant qu'en garde à vue, le droit de s'entretenir de manière confidentielle avec une avocate ou un avocat peut se résumer à un simple coup de fil, sans garantie que la police n'écoute la conversation. Pour ce qui est des tribunaux, les jugements peuvent se faire par visioconférence et même par téléphone. En correctionnel, un décret constatant la persistance de la menace sanitaire permettra de transformer les audiences collégiales en audiences à juge unique. Les détentions provisoires peuvent être prolongées de 6 mois sans aucun débat contradictoire, c'est-à-dire sans possibilité de se défendre oralement. De fait, de nombreux juges ont prolongé de manière automatique les détentions arrivant à terme, sans même convoquer la personne à une audience. Idem lorsqu'on est assigné à résidence. Et si l'on est en prison, après avoir été condamné, les possibilités de se défendre, que ce soit pour les aménagements de peine, les réductions de peine, les permissions ou libérations sous contrainte, toutes ces possibilités se réduisent à de simples observations écrites. Certains mineurs ne sont pas épargnés par cette logique de réduction des droits de la défense, bien au contraire. Détention provisoire, mesures éducatives et placement prolongé, audience à juge unique, prolongation de garde à vue sans présentation à un magistrat. La sortie anticipée d'environ 5000 prisonniers et prisonnières en fin de peine n'est pas un geste de générosité et ne pourra pas compenser l'inflation carcérale que ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, a amplifiée. Concernant le droit des étrangers, c'est encore une réponse sécuritaire au risque sanitaire. Les demandes d'asile sont quasiment suspendues. Les délais de recours n'ont pas été adaptés à l'incapacité actuelle des services administratifs à instruire les dossiers, que ce soit pour les demandes d'asile, les placements en rétention ou les expulsions. Les centres de rétention enferment encore, illégalement, malgré les reconduites à la frontière désormais impossibles, et notamment des personnes malades.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est quand...
Non, personne n'est séquestré. Mais nos ennemis n'ont pas changé. Partout en France et dans les banlieues, Particulièrement, les révoltes se multiplient et les nuits sont incendiaires. La colère n'en finit pas de monter parmi les cibles ordinaires de la police, parmi celles et ceux que le confinement assigne à la misère, parmi les travailleurs et travailleuses exposés au virus, parmi nous, toute la population qui savons que, Covid ou pas, nous resterons toujours du même côté de la barrière. Face à la déferlante de mesures répressives et de pratiques autoritaires, il est nécessaire de se défendre ensemble. L'objectif de nos collectifs et de ne jamais laisser personne isolé face à la police et aux juges. Dans la mesure des moyens dont dispose chaque collectif, nous restons donc disponibles pour contester les amendes de non-respect du confinement, mettre en contact avec des avocats, accompagner les proches de personnes blessées, mutilées ou tuées par la police. Aujourd'hui, nous nous adaptons à toutes les contraintes qu'impose le confinement et nous nous organisons pour la suite.
Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Le constat d'un abandon général des principes constitutionnels et des droits fondamentaux interpelle. Même si on ne défend ni l'État ni sa justice, pourquoi lutter contre une maladie devrait inexorablement se traduire par une acceptation du flicage général, une résignation à être dépossédé de tout libre arbitre, un changement de régime et un durcissement des conditions judiciaires et carcérales? Alors que derrière le recours aux technologies pour tracer les contaminations, on voit déjà poindre la banalisation et l'extension de l'exploitation des données personnelles. Il n'a cependant pas fallu attendre 2020 pour que la police utilise les données fournies par les opérateurs. Le processus risque fort d'être le même dans tous les domaines. Comme on s'habitue aux drones, à la vie sociale virtuelle, à l'information médiée par les algorithmes, on s'habitue aussi à vivre sous cloche et sous surveillance. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. Comme toute loi d'exception, l'état d'urgence sanitaire sera plus qu'une parenthèse. Au mieux, il sera un précédent inspirant pour les gouvernements. Au pire, il sera une phase de transition. Des dispositions de l'état d'urgence de 1955, réactualisées en 2015, sont ainsi entrées dans le droit ordinaire en 2017. Comment ne pas craindre alors que la loi sur l'état d'urgence sanitaire de 2020 initie de nouvelles lois, mais aussi de nouvelles pratiques de gouvernementalité pour les années à venir? Ce moment n'est pas une faillite du droit, de la justice, de la démocratie, mais bel et bien une démonstration du fait que la loi, retranscrivant les rapports de force existants au sein de la société, peut être modelée en fonction des besoins du pouvoir. Elle formalise un ordre social et quoi qu'il en coûte. Ce que permet cet état d'urgence, ce n'est en aucun cas de développer des moyens susceptibles de rompre avec la logique criminelle qui nous a menés à ce désastre. Le 16 mars, lors de l'allocution présidentielle, nous avons bien entendu la déclaration de guerre et nous savons bien de qui elle provient.
La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà.
Ériger un prétendu ennemi commun, appeler à l'unité nationale, la tactique est éculée et le chantage grossier.
Dommage que l'unité n'ait été de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal.
S'il y a une guerre qui s'annonce, ce n'est que sur le terrain social, et nos ennemis demeurent les mêmes avant, pendant et après la pandémie.
Il est temps que cela cesse, face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même avant je reste. Police en premier, on voit la République brûler, on aime un bûcher. Il est temps que cela cesse, face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même avant je reste. Police en premier, on voit la République brûler, on aime un bûcher.
Et voilà, c'est un texte qui est signé de plein de, en fait, de collectifs d'autodéfense juridique, de legal team, de collectifs anti-répression partout en France, à Lille, à Calais, à Paris, à Bure, à Lyon, à Dijon, à Grenoble, à Marseille, au Pays Basque, dans les Cévennes aussi. Voilà, donc plein de collectifs qui luttent contre la répression quotidienne, en fait, qui effectivement s'adaptent aux conditions d'état d'urgence sanitaire. Voilà, et je crois qu'on avait envie de passer le morceau de NTM dans son intégralité, même si on l'a passé il y a quelques temps. On y va ?
Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville, conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle.
Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Nos visiteurs s'acheminent vers un appartement habité. Ils vont pendant quelques minutes en apprécier la chaude intimité.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour vous, ça va, mais qu'est-ce?
Mais qu'est-ce?
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression, stoppe et naît la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Je ne fais que vivre baïonné,
en effet,
comme le veut la société.
C'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse. Policiers en premier, hey. On voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes miroirs tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi.
Oh, désarroi, déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Oh, désarroi, déjà roi.
Tout subirait la même pente. La gonne est lente, c'est pourquoi j'en attends tant. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence. Mais ça vous fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on se fasse? Mais qu'on attend pour qu'on se fasse? Qui sommeille en moi se réveille. Son nom repère, son nom modèle de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé.
Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines.
Alors arrête
ton tour. Plutôt que cela traîne, ne traîne même encore plus de haine. Je ne pourrai s'élever ce système.
Quel est votre métier?
De l'usine pétrochimique AZF.
Devant la centrale de Three Mile Island.
L'usine de pesticides de la firme Union Carbide.
Sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.
Située à Tchernobyl en Ukraine.
Et des victimes de l'amiante.
Et nous retrouverons les jours heureux. Oh!